Bonjour, je m'appelle Louis Colorette et je suis directeur exécutif de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Vous écoutez le balado de la chaire, un balado qui vous permet d'écouter nos conférences si vous les avez ratées. Le 29 novembre dernier, la chaire Raoul Dandurand a tenu le colloque inaugural de l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Lors du quatrième et dernier panel de cette journée, Alison Harrell, Jeff Yates, Eva Salinas et Marie Lamench ont échangé sur le phénomène des fausses informations sur Internet et sur l'impact de ce phénomène sur nos sociétés et nos institutions. Bonne écoute!
Je suis particulièrement heureuse d'avoir de modérer ce panel-ci, parce qu'il y a deux femmes déjà, et Jeff, et moi. Donc je vais faire les présentations, je vais aussi vous prévenir, ce panel sera principalement bilingue, parce qu'on a justement Eva qui est plutôt à l'aise en anglais, mais on comprend tous les deux langues, donc pour la période de questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'une des deux langues. Eva Salinas is the managing editor of the Canadian Foreign Affairs digital publication Open Canada. I've written for Open Canada, you guys au Québec, si vous voulez vraiment lire de bons articles en anglais, visitez le site Open Canada. Jeff Yates est journaliste et chroniqueur à Radio-Canada. Il fait une excellente émission qui s'appelle Les Décrypteurs, que vous devez absolument regarder et lire ses publications. Donc, merci, Jeff. Et enfin, Alison Harrell, qui est titulaire de la chaire de recherche en psychologie et politique de la solidarité sociale à l'UQAM et co-directrice du consortium de la démocratique électorale. Eva, on va commencer par toi.
Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation à l'équipe. Je suis très contente d'être ici. Oui, je parle français et je comprends, mais je vais faire mon présentation en anglais. Sorry for that. Mais des fois, il y a des mots que je trouve meilleurs en anglais. Bon. So I am going to talk where, you know, as the panel, the title says, about journalism a bit and some of the other intersections of the themes we've already covered today. And so, you know, we've heard about how have digital technologies impacted the national and global security space. We've talked a little bit about it. I think we'll talk more on this panel about how they've impacted our democratic process and democratic integrity. And I'd like to just maybe set the scene a bit on how they've impacted journalism, both the sector, the act of journalism, and the work that journalists are doing, and the coverage of these topics. I also, as Marie mentioned, I am the editor of opencanada.org, which is a Canadian foreign policy digital website. So I'll also be speaking to how the intersections of cybersecurity, disinformation, and Canadian foreign policy fit into journalism as well. So a bit about me. I'm the editor of Open Canada. I've been there a couple of years. I studied journalism 15 years ago at Ryerson University when they taught us Dreamweaver, which was the component of what digital journalism would be to prepare us for doing journalism in the next couple of years. And online journalism was a brand new course because it was considered kind of a separate way to do journalism or separate from journalism in general. So in the past 15 years, of course, I've seen just the evolution of the industry and what digital technology has meant for the industry. Since I was a student, I've also worked for a combination of mainstream larger media outlets, so the Globe and Mail out of the Vancouver Bureau, the National Post in Toronto. I worked for Journalists for Human Rights in West Africa, and then did some foreign correspondence out of South America, where I also ended up editing a digital publication called the Santiago Times, and right at the beginning of kind of using all these exciting tools, which was at the time where we were really excited about what digital technology meant for journalism. So the live blogging, the interactive elements with readers, the reaching readers all around the world who could read news at that time from Chile, and reaching a whole new audience. So that was kind of at an exciting time when that technology meant a lot of good things. I mentioned there the some of the positive impacts that we've seen digital technology have, and we'll get more into even the tools and the technologies and how that those positive things have grown. But the concerns, the negative side, we already saw some worries, some deep concerns of how digital technology was impacting, of course, the financial or business model of journalism. And I think that was the first big wave of worry that journalism had, starting at least 10 years ago, where we saw the loss of advertising in print publications and an uncertainty around how could we retain such a similar model online because ads, we couldn't see, the same kind of necessary click-throughs, or it was easier to do, and it just kind of blew everything out of a local space when you have everything online. So it just completely upended the financial model, and that was the first big worry, and we saw layoffs immediately as the, it was also paired with the 2008 financial crisis, and so we saw closure of media and layoffs en masse starting from that time. And so I looked at a few, this is, to put it in perspective, there was a recent study survey about what the losses have looked like in Canada. About 268, or over 250 it was last year, I think it's about 268, media outlet closures since 2008, so in 10 years. Now, there have been new ones to emerge. About 91 outlets have been created. Of the losses, a lot are local news organization, and of the new additions, they are a lot of digital publications. Same goes in the U.S., the same kind of big losses. 2008 and 18, so not to say there was a huge wave and it's died down. 2018 was the largest year, the largest number of layoffs in the U.S. media sector since 2009. So I know that's pretty grim, but layoffs are still happening en masse. So that's, of course, the backdrop that we see a second crisis come out, which is the crisis of disinformation and what that meant for journalism. Of course, it has reinforced what was always a challenge, just the importance of good, accurate journalism, right? So that challenge, that integral part to journalism always existed, but now we have journalists under the microscope more than ever. And so it has created, of course, a crisis for journalism because we have to prove ourselves even more. Again, and this is something I struggle sometimes, explaining, because of course that always existed and good journalism is accurate journalism. But that has reinforced that that challenge. And I just want to, I don't want to overstep any other presentations, but just briefly, we've heard disinformation, misinformation, fake news. I just want to say, for at least the understanding within the journalism industry, disinformation, and within cyber dialogue as well, disinformation being the deliberate or by design use of erroneous information, misinformation just being an error or some kind of erroneous but not necessarily deliberate by design, and fake news being a term that we've kind of tried to just quietly not use anymore because it's been weaponized against the media. And so when we continue to use that term, we're keeping it alive, essentially, which it can be used against journalists. So increasingly, we just are not using that. Disinformation, as we know and has been mentioned, has basically caused the crisis in trust in journalism. I thought it was interesting to note that many surveys say in the United States that's certainly the case. However, we haven't necessarily seen the same kind of numbers in Canada for distrust. There was a survey released last year that actually saw a slight uptick in trust in Canadian media. I just want to put that out there because it's not always so simple that there's a global trend and that there can be differences. We're certainly not immune to what is happening in the United States and the distrust of media on the whole.
And we are certainly kind of fighting to keep that trust going and reinforce and having to tell our own story in order to be supported. But that it's not the exact same as the United States. And the other impact of what is the distrust of journalism means, of course, as I said, we have to just continually try and do as accurate journalism as possible. But it is making it harder, the advent of digital technologies, to confirm sometimes our stories. So deep fakes, the manipulation of images and videos, very, very hard to check. And I'll just give, because it was the most, I think, the image that played into the Canadian election that was very much of interest, which was the image that surfaced of Justin Trudeau in brown face, which I'll just give a bit of background on that image. And this is something I've discussed at workshops in Ontario recently, and that is that that image, I know in this day and age, you know, how did we check to see if that was real? Now, the story that appeared in Time magazine did confirm it with the Prime Minister's office that it was, in fact, Justin Trudeau. Had they decided to not confirm, to not say anything, we don't know whether they still would have run that story or that photo. I'd like to think not, because how do you confirm that it wasn't doctored in some way? I will say also that there were other journalism outlets who did have the image and could not confirm it, and so they did not run it. That's how journalism should be, you know? So Time magazine ran the story. They had done other kinds of checks, contacting those who were there that night, digging into how the photo from the yearbook came to be in their possession, which was through a personal contact. But of course, all those things are the checks and balances that should be in good journalism. But I'll just, I'm just saying that that's just an example of, especially with images and video, the challenges, extra challenge now. Does it complicate the challenge of responsible journalism? Absolutely, because as we also see, we've always struggled with, do we just report on what a politician or an opponent, especially in election time, says without checking it, without providing context? No, the responsible journalism way would be to provide that background context to get other sides. But what happens when the leader of another party posts a statement on Twitter and within 2 seconds it's just out there, and do we follow it up to see if it's true? Is that a good use of our resources? Do we debunk it? So it's created a whole extra challenge when it's so accessible for other actors involved to just put their own messages out on social media. At what point do we chase those stories or debunk them? And is that disinformation? And it's been mentioned a little bit today, just on, we've had terms, propaganda, advertising, these aren't new. But of course, it does add the challenge when it's out there on social media. And of course, we have less resources as media teams to cover them. So I'll get into maybe just some of the solutions, because I also don't want to go too deeply into fact-checking, because I know Jeff, too, will bring his perspective, too, on what they've been doing with your show. And I also want to leave it in a slightly a hopeful, it's almost impossible, but so what is happening to tackle these challenges? We see new forms of governance models. So this includes for governance over, of course, platforms, social media platforms. And that is a challenge at a national level, international level. So at the same time, there's also the question around what kind of public support or governance should there be in journalism? So we've seen in Canada, I was part just a couple of years ago after the election of Justin Trudeau, the Public Policy Forum was essentially hired to do workshops across the country with journalists. I was part of one of those closed-door conversations in Toronto, one of three representing the digital media space in Canada, saying, what do you think would be the most helpful to support journalism? It was me, Canada, Jesse Brown from Canada Land, and then it was originally launched as Sue Today and is Village Media. And Jeff, I should remember his last name. It will come to me. But anyway, the owner of Village Media, which is online local news. And so the three of us were there, and all the heads of CBC, Toronto Star, Post Media were in the room as well, and so those conversations took place across the country. From that, there was a report, Shattered Mirror, and afterwards, still grappling with this question: how much should the Canadian government get involved with some kind of public support for journalism? They did launch in the last budget, and we knew it was coming. Basically a tax break fund or a media fund, and it's still basically in debate over who is a journalist in Canada. So there was an acknowledgement that yes, there should be some kind of public policy response to support journalism, but the jury is out in terms of whether that will be effective. There have been a lot of criticisms that it might go to supporting already large media institutions and leave out freelancers, digital media outlets, and not go to foster media innovation per se. But that is one of the models that is, of course, being looked at. The other are innovation models such as a crowdfunding and privately funded and subscriber-based models. One of the more exciting media outlets to emerge is The Logic, David Skok. So for many of you who will be interested in this area of cybersecurity and disinformation and just digital technology on the whole, The Logic, it is subscriber based, and it is, I'll just say, expensive. Something that's new, it does cost quite a bit. I think there's actually a Black Friday sale on right now. I don't represent them. But it speaks to this question of can we put the genie back in the bottle? We're used to getting essentially free journalism, and so what are the models that are emerging right now to change that? Of course, there's all kinds of other innovation, media innovation, a lot coming out of Europe, United States. There have been some in Canada, so I'm thinking of Discourse Media, also subscriber funded, The Sprawl in Calgary. You have mixed funding models like The Conversation, which came out of UBC. You have think tank models. Open Canada is one of those think tank models. Policy Options, another one of those think tank models, meaning think tanks funding an outlet. You have individual funds for freelancers. A lot of journalists covering policy, in particular foreign policy as well, or international affairs, are freelancers now. So how do they get supported? And I want to give, how am I for time? I want to give a nod to a fund that was created in 2017 called the Fonds Québécois en Journalisme International. And actually tonight, or no, sorry, tomorrow is the closing date for the next round of funding for journalists wanting to do international journalism in Quebec. So they have rounds that come up every couple of months, and that's a great initiative. There's also the Travers Fellowship out of Ottawa. Of course, this is happening globally. We have The Correspondent. We have a model like Political Pro, which has Politico's news arm, and then you have the pro side, which many of you may subscribe to, and you get insider information on foreign policy, business, economics, international trade. And lastly, I'll just say we have basically the other element of the implications of disinformation and the impact of digital technology is we're basically doing a bunch of industry catch-up. on best practice here. So you have reports and studies and institutes looking at this all the time, kind of releasing what they think should be guidelines on when should we partner with social media platforms? When should we cut off comments? When should we, how should we do corrections? The Toronto Star's public editor and the position of public editor is also something new in the past couple of years. The Toronto Star's public editor just published this week on, is publishing a correction online enough when it's maybe the story that was had a mistake in it went so far? How do we also get to all the people who read that initial story? So we're constantly trying to play catch up with how can we improve? How can we have some kind of guidelines for the industry? And also you have, of course, and I'll maybe leave it on this, you have just experts themselves reaching out and communicating their own stories. And I think maybe we'll, if we have time, we'll talk about this in discussion, but you know, you have, in the past year alone, we've seen, at least in the English language Canada, a ton of podcasts. I mean, of course, this is also being recorded for a podcast, but you have, you know, McGill's Max Bell School doing a new podcast. There's Intrepid with Stephanie Carvin and Craig Forsey's out of Ottawa. Battle Rhythm, which is a new podcast on Canadian defense issues. Big Tech, which I will plug, and I am affiliated because it's a CG and the Logic partner. Partnered podcast, David Scott and Taylor Owens, that just launched last week. Kevin Newman doing attention control. So there's a wealth of information directly coming from experts themselves via podcasts. So I'll leave it at that, just kind of setting the scene for the changes we've seen and some of the innovations that have come out of it, good and bad. And yeah, thank you so much. Thank you.
Donc, merci pour l'invitation d'être ici. La présentation va être en anglais, mais je vais parler en français, donc n'hésitez pas à demander des questions après dans n'importe quelle langue. Bien, n'importe de ces deux langues. Donc, ce que je vais faire, je vais parler vraiment d'une perspective des citoyens envers les procédures électorales. Donc, ce que je vais faire, je vais parler de deux types d'institutions. D'un côté, c'est les institutions qui gèrent les élections au Canada, et de l'autre côté, les institutions médiatiques. Et ce que je vais faire à travers la dernière élection fédérale qui vient de finir, je vais parler des perceptions de ces deux institutions du côté des citoyens. Donc, je vais mettre le contexte un peu, les défis auxquels on fait face pour le moment du côté de l'engagement et la confiance des citoyens. D'abord, je veux mettre le contexte de ces deux institutions face aux institutions plus politiques. Depuis très longtemps, la confiance envers les politiciens et aussi les institutions qui sont vues comme plus partisans et politiques, le gouvernement, le Parlement, etc., les niveaux de confiance face à ces institutions sont assez bas. Surtout en comparaison d'autres types d'institutions qui sont vues comme plus neutres. Je crois que c'est un contexte important, ce n'est pas spécifique au Canada. C'est quelque chose qu'on observe dans pas mal de pays, mais c'est quelque chose dans lequel il faut situer la confiance face aux médias, mais face aussi aux institutions dans le contexte canadien qui gèrent les élections. Si on veut comprendre les attitudes et les perceptions des gens face au processus électoral, je crois que le contexte actuel, et Eva a très bien fait de la mise en contexte de ce contexte plus hyper-médiatisé, on a beaucoup plus d'accès à l'information aujourd'hui qu'on aurait il y a 20-30 ans. Donc, le choix est immense et très diversifié. Ça vient des sources journalistiques traditionnelles où il y a des normes très fortes de neutralité, d'objectivité, etc. Mais on a accès à toute forme de journalisme, de citoyen, jusqu'à la désinformation et le terme que je ne devrais pas utiliser, apparemment les fausses nouvelles. Donc, l'accès à l'information est immense et au même temps, on a beaucoup de choix. Donc, si je veux regarder que le hockey, c'est possible, je peux le faire 24 heures par jour et je ne serai pas exposée du tout de la politique traditionnelle. Donc, au même moment où on a une explosion d'accès à l'information, on a une division dans la population, dans les gens qui vont consommer davantage, qui vont avoir un intérêt, qui trouvent la politique un sport. Et puis, il y a les autres gens qui regardent les sports. Donc, il y a vraiment une distinction dans les citoyens qui va faire qu'on est plus isolé dans la façon dont on va consommer l'information. Et dans le passé, une des hypothèses très intéressantes dans la littérature qui sort de la littérature plutôt américaine, c'est l'idée que cette explosion d'accès à l'information a fait qu'il y a toute une tranche de la population qui s'est désengagée complètement de la politique. Et c'est une des explications derrière des chutes dans le taux de participation et qu'il y a des personnes qui sont plus exposées à des nouvelles parce qu'il n'est pas obligé de regarder les nouvelles à 5 heures pour voir qui a gagné le match le soir hier. c'est vraiment, on n'est pas exposé juste parce qu'on peut éviter ça, et c'est en partie une fonction de la façon dont on va consommer les nouvelles. Dans la récente étude électorale canadienne, il y avait presque 70 % des gens qui disent qu'ils sont sur les médias sociaux au moins une fois par jour. Donc, c'est la majorité des gens qui vont consommer davantage des informations en ligne. Et c'est souvent à travers ces médias sociaux qu'on va savoir qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés. Ce qui apparaît sur nos fils ne sont pas aléatoires. Ce n'est pas comme les nouvelles traditionnelles à 5 heures le soir. Ça va être influencé par les choix qu'on fait dans nos réseaux dans la vraie vie, donc les amis qu'on va avoir, les personnes, les comptes qu'on va suivre, mais aussi par les algorithmes qu'on ne contrôle pas. Donc, ça mène à la possibilité d'une polarisation beaucoup plus grande dans les opinions d'un côté, mais aussi dans les gens qui s'engagent dans le système et qui sont informés politiquement. Un aspect additionnel qui ajoute à ces défis, c'est l'idée du raisonnement motivé, un phénomène en psychologie politique dans lequel je travaille beaucoup, qui est très important parce que les gens ont tendance à chercher l'information qui va confirmer leur opinion de départ. Et s'ils sont confrontés avec l'information qui n'est pas en accord avec leur opinion de départ, souvent ce qu'ils vont faire, c'est de rejeter ces nouvelles informations et seulement consommer et avoir plus de confiance face à des informations qui sont confirmatoires à leurs opinions de départ. Donc, il y a beaucoup de potentiel dans le contexte actuel pour la polarisation, même sans tenir compte de la possibilité des acteurs qui veulent faire de la persuasion, de l'influence dans le contexte électoral. Dans ce contexte, je crois que c'est important, surtout s'il y a les gens dans la salle qui ne sont pas familiers avec le système au Canada. Dans le contexte canadien, comparé aux États-Unis, nos élections sont gérées par une institution non partisane, plutôt que bipartisane, et indépendante. Donc, Élections Canada, c'est l'institution qui gère les élections fédérales et c'est une organisation hautement professionnelle, pas juste mon évaluation, mais c'est vraiment des professionnels de la gestion des élections qui sont utilisés à l'international pour donner des observations dans les processus divers. Et ce que je pense est important, et dans le contexte canadien, il y a un très haut niveau de confiance face à cette institution. Et la façon dont on va gérer la procédure de choisir les représentants. Donc, ça, c'est le contexte. Ce que j'aimerais faire ensuite, c'est de vous donner des informations qui viennent des sondages qui ont été menés dans l'élection fédérale 2019. Ça fait partie d'une collecte des données qui est menée par le nouvel consortium de la démocratie électorale qui est financé par une subvention du CRSH Partenariat. L'objectif, c'est vraiment d'étudier la santé démocratique au Canada à des niveaux différents. Donc, on est responsable de mener l'étude électorale canadienne en 2019 et la prochaine. J'allais mettre la prochaine date, mais avec un gouvernement minoritaire, on va voir quand ça va se passer. On est aussi chargé avec des élections au niveau provincial, d'étudier les élections au niveau provincial entre les élections et on a une collaboration avec un gouvernement dans les territoires de faire des sondages dans ce contexte également. Ce qui est un peu novateur dans cette démarche, c'est vraiment une collaboration étroite avec des acteurs non académique. Donc, on a plusieurs agences électorales qui sont des partenaires à ce projet ainsi que les acteurs dans la société civile. On a plusieurs agences électorales au niveau provincial qui sont des partenaires. Élections Canada est aussi impliqué avec un statut un peu particulier à cause de la loi électorale au Canada. Et on est aussi partenaire avec plusieurs organisations dans la société civile qui s'intéressent à non pas juste mobiliser et engager la population, mais qui ont tous un aspect de recherche à l'intérieur de leurs organisations également. Et puis, on est partenaire aussi avec plusieurs autres agences gouvernementales, mais aussi dans le secteur privé. Donc, l'étude électorale canadienne en 2019 a collecté plus que 40 000 sondages en ligne pendant la campagne. On a collecté ces sondages chaque jour pendant l'élection. Et puis, on a collecté à côté 4 000 sur les téléphones. Et après l'élection, on a recontacté toutes ces personnes avec un taux de recontact variable, mais on peut en parler si ça vous intéresse, probablement pas. Et comme j'ai dit, c'est en consultation avec les agences électorales. Bien sûr, c'est nous les chercheurs qui étaient responsables pour la collecte des données et les interprétations que je vais donner aujourd'hui, c'est les miens, pas celles de nos partenaires. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment trouver des questions qui seraient importantes pour les décideurs. Donc, les agences électorales font beaucoup d'attention à la perception des citoyens face au processus. Et donc, ce que nous avons fait, c'est de vraiment trouver des questions qui sont déjà demandées à l'interne de ces organisations pour qu'on ait une capacité de vraiment cibler les chiffres dans plusieurs sondages en même temps. Qu'est-ce que ça donne? Donc, ce que je vais vous donner, c'est juste quelques illustrations de la distribution de ces données dans l'élection 2019. On sort du terrain il y a 2 semaines, donc ce n'est pas des analyses très poussées, mais je crois que c'est quand même intéressant d'avoir une idée des différences face, par exemple, à des institutions différentes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment c'est une question face au niveau de confiance envers des institutions différentes. C'est juste un exemple des institutions qu'on a demandées, mais je les ai sélectionnées explicitement. Donc, ici, en rouge foncé, c'est les gens qui font beaucoup de confiance face à ces institutions. Vous allez voir le gouvernement fédéral et les médias. Le niveau de confiance, mais c'est plus haut que les États-Unis. Elle va mentionner, le taux est en bas, mais je pense qu'il est important à savoir pas le contexte comparatif entre pays, mais le contexte comparatif entre les institutions. Si vous voyez des institutions qui sont perçues comme plus neutres, le service public ou le système de justice, on commence à avoir un niveau plus élevé. Ce qui est intéressant pour moi, vous pouvez regarder l'Élections Canada de ces types d'institutions différentes, tous fondamentales, pour la politique au Canada. Élections Canada a un très haut niveau. 3 sur 4 personnes dans ces sondages ont dit avoir plutôt beaucoup de confiance face à Élections Canada. Et c'est quelque chose qui revient dans les données sur d'autres questions aussi. Deux questions qui ont suivi ces questions sur la confiance, c'est les questions envers Élections Canada dans cette propre élection. C'est peut-être une perspective plus optimiste. Surtout, je vais faire optimiste d'abord et puis revenir sur le pessimisme. Donc, face à Élections Canada, les gens étaient très satisfaits, en fait, avec la façon dont Élections Canada a géré la campagne. Ils ont perçu ça comme un processus très juste. Ce que je pense est important à savoir si vous consommez, et j'imagine avec le cher Harold Dandurand que vous consommez beaucoup de nouvelles, surtout dans le contexte américain. Je ne peux pas imaginer les mêmes types de distribution dans le contexte américain du tout. Donc, au niveau de confiance dans l'agence électorale et une perception que la procédure est juste et fait correctement. Ce n'est pas partisan et on peut faire confiance dans ce système. Je vais retourner. Si on compare ça aux médias, la perspective des Canadiens face aux médias ressemble beaucoup plus, à mon avis, à ce qu'on va observer au sud de la frontière. Ce que vous voyez ici, c'est juste trois questions. On a demandé aux gens, est-ce que vous êtes en accord ou en désaccord? En accord et jaune, ça va jusqu'au en désaccord dans le rouge foncé. La première deux, c'est à propos des médias traditionnels. Est-ce qu'ils sont contrôlés par des intérêts des élites? Est-ce que les journalistes des médias traditionnels mentent? Donc, des rhétoriques qui sont très à jour ces jours-ci, malheureusement. Et ce que vous voyez est qu'il y a beaucoup d'accords que le média est contrôlé, les médias traditionnels sont contrôlés par les élites. Et beaucoup de désaccords avec l'idée que les journalistes ne mentent pas. Donc, une perspective assez pessimiste envers ces institutions qui, si on va comparer avec les autres sources d'informations politiques qui sont disponibles, sont les plus fiables, il faut dire. On avait aussi ajouté une question sur l'importance d'avoir la possibilité d'exprimer des opinions qui ne sont pas basées dans les faits. Donc, on voulait capturer un peu les perceptions envers l'importance des opinions en soi et toucher vers des questions des fausses nouvelles. Les gens sont plutôt en désaccord, ce qui est bien, mais la distribution est un peu plus balancée sur cette question. Donc, quelles sont les options face à ça? La deuxième étape dans les procédures, c'est les possibilités de changement. J'avais mentionné que la procédure, les agences, les institutions qui gèrent nos élections, le public a pas mal de confiance envers eux, mais on avait demandé des questions aussi sur les possibilités de modifier la procédure de façon différente pour confronter des problèmes perçus par la population, les questions de la sécurité du processus, donc notamment avec des questions en lien de confirmer l'identification des lecteurs, mais aussi la possibilité de rendre le processus plus facile, parce qu'il y a aussi des barrières d'entrée sur cette dimension-là. Je ne sais pas si ça va étonner, mais il y a beaucoup de gens dans le contexte canadien qui sont en accord, plus que la majorité, qui sont en accord que ça serait bien pour le gouvernement de créer des cartes nationales d'identification pour vérifier l'identité des électeurs. La deuxième, donc, c'est ça serait important d'avoir une carte d'identité pour confirmer l'identité des électeurs. La deuxième, qui est vraiment divisée dans les électeurs, il y a vraiment une controverse ici. Les gens sont soit très en désaccord qu'il faut voter en ligne ou plutôt en accord. Je crois que c'est intéressant, mais ça montre que c'est un débat. Ce n'est pas des opinions très mitigées à cette question. La dernière donnée que j'aimerais bien vous montrer, c'est des sondages qui ont été faits avant l'élection. Chaque mois, on a collecté plus que 1 000 répondants chaque mois en mai, juin, juillet et août. Et puis, un autre sondage qui a été collecté après l'élection en novembre. Et on avait demandé une question sur la confiance envers nos élections s'il y a un risque d'ingérence étrangère. La réponse la plus commune, c'est qu'on est plutôt confiant que c'est correct. Il n'y a pas d'ingérence. On est safe. Safe from foreign interference. Je ne me souviens pas de comment on a traduit ça pour le moment. Mais c'est pas mal haut. Les gens ne sont pas très confiants, mais plutôt confiants. Et la deuxième n'est pas très confiante. Donc là, il y a certains soucis parmi la population que le processus, qu'il y a des risques. Ce n'est pas étonnant, étant donné la masse de médias qu'on reçoit des États-Unis. Ce que je pense, et je vais finir là, c'est correct pour le temps. Je vais finir en disant que je pense que ce qu'on voit ici est qu'il y a beaucoup de confiance face au système. Je pense que c'est en partie à propos de la structure des institutions qu'on a en place au Canada. Il y a quelque chose à dire pour avoir une agence indépendante qui est vue comme non-partisan. Il n'y a pas énormément d'inquiétude parmi les citoyens face à la sécurité de ce processus, même si les experts voient les défis à confronter. Malgré ça, je pense qu'il est important de dire que même si le public n'est pas très inquiète, ce qu'on voit est que les acteurs gouvernementaux et d'autres experts voit de diminution de confiance comme vraiment une menace importante à la démocratie. Et donc, il y a beaucoup d'inquiétudes à travers nos partenaires différents face à cet enjeu. Et je crois qu'ils ont raison. Parce que je crois qu'une des forces du système dans lequel on est cette idée qu'il y a un arbitre neutre de nos institutions qui n'est pas politisé. Il y a des risques. Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe en Alberta pour le moment, mais il y a tout un débat qui semble politiser les institutions, les agences électorales dans le contexte en Alberta. Et je crois que le risque est là, peu importe la résolution de ce qui est fait, la perception que ces agences ont un rôle partisan dans le processus va faire que les citoyens vont davantage croire les fausses nouvelles, les mésinformations ou désinformations à propos du processus et la sécurité de ceci. Donc, ça risque de politiser le processus. Je crois que l'autre risque que je vois dans ces données préliminaires, c'est la méfiance envers les médias traditionnels. Je crois que la solution à beaucoup de ce qu'on observe présentement, en fait, c'est d'avoir davantage de confiance face aux ressources fiables. Et cette érosion, érosion, c'est pas un bon mot, cette diminution dans le niveau de confiance face aux médias traditionnels a un risque de davantage polariser le public dans un contexte hyper médiatisé. Merci. Et un plug, si ça vous intéresse, on a un site web.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Jeff Yates, je suis journaliste avec l'équipe des décrypteurs à Radio-Canada. On parlait aujourd'hui du fait que les médias doivent consacrer de plus en plus, malheureusement, du peu de ressources qu'ils ont à ces enjeux-là de désinformation. En Radio-Canada, on est chanceux. On a mis sur pied une équipe qui s'appelle les décrypteurs. On est trois personnes avec ma collègue Bouchra Ouattik et mon collègue Alexis Delancer. Les décrypteurs, c'est une équipe de vérification des faits, mais aussi qui traite de tous les enjeux, qui parle de tout ce qui est la mauvaise utilisation du web. Donc, ça va des fausses nouvelles, des nouvelles qui ne sont pas vraies, de la désinformation, mais aussi les arnaques, la radicalisation, ces choses-là. C'est une émission de télévision. C'est drôle de dire qu'on trouve ça innovateur d'avoir fait une émission de télévision. mais à notre connaissance, on est la seule émission de télévision entièrement dédiée à ces enjeux-là en Amérique du Nord. Pourquoi la télévision? Vu qu'on parle du web, ça peut avoir l'air bizarre. En fait, c'est pour rejoindre un auditoire qui en a besoin. Donc, on sait que l'auditoire télévision est parfois plus âgé. Parfois, les gens ont de la misère à se retrouver sur le web et avoir une émission hebdomadaire qui les accompagne là-dedans. On pense que c'est un bon service pour l'auditoire et la réponse qu'on a des gens est vraiment très bonne. C'est pas juste 22 minutes de « ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça serait plate ». C'est vraiment une petite portion de l'émission qui parle de fact-checking. Le reste, c'est vraiment de parler des enjeux qui entourent ça. Qui crée cette désinformation-là? Comment est-ce que ça circule? Pourquoi? C'est quoi les enjeux technologiques derrière ça? C'est quoi les enjeux politiques derrière ça? Donc, c'est vraiment tout ce qui entoure ça. Puis bien sûr, c'est sur la télévision, mais c'est aussi disponible sur le web, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, et on a des dossiers web écrits aussi. Pour ma part, moi, mardi prochain, ça va faire 5 ans que je couvre la désinformation. Je parlais des fausses nouvelles avant que c'était cool. C'est mon moment hipster, désolé. Mais je veux vous parler aujourd'hui de mon évolution, de ma compréhension de ces phénomènes-là. Ce que je vais vous raconter, c'est un peu anecdotique. Je ne suis pas un chercheur, c'est vraiment en tant que personne qui est dans les tranchées, qui voit ça circuler sur le web, qui parle à des gens à chaque jour sur le web, qui sont pris dans ce désordre de l'information-là. Je sais qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui se penchent à ces enjeux-là. Si je me fie à ma inbox, je reçois beaucoup de courriels d'étudiants universitaires qui veulent faire des projets de recherche sur la désinformation, donc très, très bonne initiative. Je pense qu'on va voir beaucoup de recherches universitaires dans ces domaines-là, et c'est bon, c'est un phénomène qu'on doit comprendre de mieux en mieux. Donc, moi, c'est sûr que ça reste anecdotique en tant que journaliste, mais c'est juste le fruit de mes réflexions. Donc, mon tout premier billet que vous voyez à gauche, 3 décembre 2014, « Non, César Milan, l'homme qui parle aux chiens n'est pas mort ». Donc, c'était quelqu'un qui avait créé un site web, qui avait créé cette fausse nouvelle-là de toutes pièces sur un site web. Ça avait énormément circulé, là, 14 000 partages quand même. J'ai écrit l'article, je trouvais ça très drôle. C'était quasiment comme une blague. Non, c'est pas vrai. Puis avec plein de jeux de mots dans l'article. Cinq ans plus tard, incursion dans un forum néo-nazi dont les données ont fuité sur le web. Donc, on voit qu'il y a un tournant pas mal plus, en bon français, dark dans ça. Et c'est une tendance que je vois chez mes collègues qui travaillent sur la désinformation. Veux pas, quand on travaille là-dedans, on se retrouve à tomber dans les coins les plus sombres du web. Il y a beaucoup de désinformation dans ces cercles-là, et on a tendance, on dirait comme journaliste, à tomber dans ce rabbit hole-là. Et les coins extrêmes du web font partie de cet écosystème-là. Malheureusement, à cause des réseaux sociaux d'Internet, les coins les plus extrêmes peuvent maintenant avoir accès à un auditoire plus large. Donc, je pense que c'est important de couvrir ces choses-là. L'évolution de ma compréhension des fausses nouvelles, ça c'est fausses nouvelles classiques, fake news, ça c'en est une vraie fake news. C'est d'ailleurs le plus gros site de fausses nouvelles, un des plus gros sites de fausses nouvelles au monde, qui est géré par deux gars à Québec. Et ce site-là est dans tous les palmarès des fausses nouvelles les plus populaires. Eux autres, ils se disent satiriques, mais il n'y a pas vraiment de joke là-dedans. C'est écrit comme si c'était un article de nouvelles. Donc, au début, quand j'ai commencé à couvrir les fausses nouvelles, ma compréhension était essentiellement économique et technologique. Donc, d'une part, ces gens-là font de l'argent avec ça, c'est de l'argent qui pourrait aller aux médias, c'est pas une bonne chose. D'une autre part, pourquoi est-ce que les réseaux sociaux permettent à ces choses-là de circuler et facilitent la circulation de ces choses-là? Quand tu débunkes quelque chose comme ça, c'est assez facile. Les gens, si tu dis que c'est pas vrai, les gens vont te croire, généralement. Ils n'ont pas de problème. « Ah, bon, c'est fait avoir. » Ça va peut-être continuer à circuler, mais les gens vont changer d'idée quand même assez rapidement. Il n'y a pas vraiment d'enjeu de ce côté-là. Là où ça se corse, c'est vraiment dans la nouvelle tendance, les tendances qu'on voit évoluer dans les fausses nouvelles, c'est des choses, premièrement, extrêmement émotionnelles, très, très penchées sur l'idéologie. Mais aussi, un certain sens artisanal. Donc, on est parti d'un modèle où c'était sur des sites web, où les gens créaient des sites web pour faire des publicités. Maintenant, c'est beaucoup des publications où on inclut des photos, des vidéos, des textes, à même Facebook, à même Twitter. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire de l'argent avec des publicités, c'est vraiment de mettre de l'avant une information qui est erronée. Ces deux exemples-là qui ont circulé dans la dernière année, vous voyez, en haut à gauche, c'était des photos où on voit des jeunes briser une statue de Jésus, puis les gens disaient « c'est des musulmans en Suède qui ont cassé ça, regardez comment ils sont méchants ». En fait, les photos provenaient du Chili, puis c'était des étudiants pendant une émeute étudiante, on connaissait à Montréal. En bas, les glaciers, bon, deux photos qui circulaient, le 10 Years Challenge, on se dit « regardez la fonte des glaciers, c'est le même glacier à 10 ans d'intervalle ». Dans les deux cas, c'était faux, c'était 100% factuellement faux. C'était facile à démontrer. Quand j'ai démenti cette histoire-là, j'ai eu une réaction que j'ai vue dans les commentaires dans ma inbox. Who cares? C'est dans le fond, ce que je me fais dire, c'est que, OK, oui, ces images-là sont peut-être pas vraies, mais l'histoire derrière, elle est vraie, elle. Donc, ça démontre les limites du fact-checking dans ces contextes précis-là. Et donc, je me suis dit que je voulais comprendre ce raisonnement-là. Sans jugement, vraiment, je veux comprendre pourquoi les gens partagent ces choses-là, puis pourquoi ils pensent que c'est permis de partager une information qui est fausse. Donc, cette année, j'ai fait un assez gros projet pour vraiment axer sur la fausse nouvelle la plus populaire de l'histoire du Québec. Donc, un gros dossier que j'ai fait. Et c'est une publication Facebook que les gens copie-collent. J'ai recensé à peu près 400 000 partages pour une histoire au Québec. C'est absolument énorme. Et dans le fond, ce que l'histoire raconte, c'est que le maire de Dorval, qui est une ville en banlieue de Montréal, a décidé de ne pas bannir le porc dans les cantines scolaires alors que les parents d'élèves musulmans le demandaient. Cette histoire-là ne se peut pas. Les maires du Québec n'ont aucun pouvoir sur ce qui se passe dans les écoles. Donc, à la base, ça ne se peut pas. C'est absolument impossible. Mais les gens continuent à le partager. Tous les médias du Québec ont démenti cette histoire-là. Ça continue de circuler. Depuis que j'ai publié mon article, cette publication-là en particulier a été partagée 7000 fois de plus. Et les gens continuent de me l'envoyer. Même si j'ai fait un gros dossier, je suis allé à toutes les émissions de radio pour en parler. J'en ai parlé à tout le monde, en parle il y a quelques semaines. Ça continue de circuler. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté une centaine de personnes qui ont partagé cette publication-là pour leur demander vraiment, écoutez, c'est pas vrai l'histoire que vous avez partagée. Sans jugement, je veux juste savoir pourquoi. Premièrement, c'est pas vrai. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que vous avez partagé? Qu'est-ce qui est venu vous chercher là-dedans? Parce que je pense que c'est important de comprendre. Et il y a des gens qui m'ont répondu. Donc, il y a un monsieur qui m'a dit, bon, peut-être que l'information est fausse, mais les idéaux, eux, représentent ce que les Québécois pensent. C'était plus les idées que j'ai retenues. Pour moi, c'est là que ça prenait tout son sens. Donc, la personne disait, ben, les faits dans l'histoire sont peut-être pas vrais, mais cette histoire-là d'un maire qui tient tête à des demandes d'élèves musulmans, c'est quelque chose qui m'inspire, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis ça, j'y crois. C'est quelque chose que j'aimerais voir, dans le fond, ce qu'il dit. Même chose ici, quand j'ai su que c'était faux, ça n'avait pas vraiment d'importance pour moi, car même faux, ça représente ce que je crois devrait être fait dans une circonstance comme ça. Et donc, la réflexion que j'ai eue, c'est que c'est un peu... C'est comme des contes pour enfants, dans le fond, c'est... les faits sont pas vrais, mais la morale de l'histoire, les gens croient à ça. Donc, ils partagent ces histoires-là en se disant, voici ma vision du monde, voici ce qui est important, voici mes valeurs. Et donc, dans ce contexte-là, ça devient extrêmement, extrêmement difficile de fact-checker ça, parce que même quand tu leur dis que c'est pas vrai, ils disent, ben, les faits sont pas vrais, mais le fond de l'histoire... Il est vrai pour moi. Il représente mes valeurs et je le partage pour ça. Et il y a même, une madame qui m'a dit, moi, je savais que c'était faux avant de le partager, mais je l'ai partagé pareil parce que ça représentait bien mes valeurs. Donc, si on regarde ces fausses nouvelles-là dans l'optique de corriger les faits, ça ne sert à pas grand-chose, en fait, parce que les gens ne partagent pas ça pour partager des faits, pour informer leurs amis. Donc, l'histoire que le maire de Dorval a fait un superbe discours pour expliquer pourquoi il refusait de bannir le porc, c'est pas ça l'information qui est importante dans cette publication-là. Ce qui est important, c'est l'émotion derrière. Donc, c'est pas tant les 180 000 partages, c'est les gens qui cliquent « j'aime », les gens qui cliquent « je suis fâché », les gens qui écrivent dans les commentaires « bravo, monsieur le maire ». C'est ça, c'est pour eux, c'est... c'est ce que ça représente. Et les réseaux sociaux, ça n'a pas été inventé comme moyen de distribution de l'information, ça a été inventé comme moyen de construire une identité sur le web. On partage des photos de nos chiens, de nos enfants, de nos parties de Noël. On montre à la planète qui nous sommes à travers notre page Facebook, à travers notre compte Twitter. Et les gens utilisent l'information un peu comme ça aussi. Donc, je partage un article pas parce que je veux informer mes amis, mais parce que cet article-là représente ma vision du monde, représente émotionnellement ma vision du monde, la façon dont je comprends l'actualité, et oui, la façon dont j'aimerais que le monde, dont j'aimerais voir l'actualité, en fait. Et donc, dans ce contexte-là, bon, si on n'arrive pas, même si on corrige les faits, ça a aucune incidence sur le fait que ces choses-là sont circulent. On pourrait se poser la question who cares? Pourquoi est-ce qu'on fait du fact-checking? Dans le fond, ça ne sert absolument à rien parce que même si on rétablit les faits, les gens vont y croire de toute façon. Je pense quand même que c'est important de faire ce travail-là pour plusieurs raisons. D'une part, ça circule sur le web. Les gens ont le droit d'être informés de ce qui circule. Les fausses informations qui circulent sur le web, ça fait partie de notre écosystème. Il y a des gens qui votent, qui consomment des informations fausses comme ça. Je pense que tout citoyen devrait avoir le droit de savoir ce qui circule sur le web. Et deuxièmement, c'est vraiment pas tout le monde qui est polarisé 100% du temps sur 100% des sujets. Donc, quelqu'un peut être super polarisé sur les vaccins, mais pas tant polarisé sur l'immigration. Quelqu'un peut être 100% polarisé sur le fait que la Terre est plate, mais faire vacciner ses enfants. Donc, on doit être là pour les gens qui sont à la recherche de bonnes informations, puis qui font des recherches Google, il faut être là dans les résultats pour les accompagner là-dedans. Mais plus, peut-être d'un côté plus philosophique, je dirais, c'est, je pense qu'on doit être là parce que, bon, j'ai parlé à un folkloriste dans le cadre de cet article-là qui m'expliquait que ben, les fausses nouvelles, dans le fond, c'est une tendance humaine dont les humains ont toujours raconté des histoires pour exprimer leurs craintes. Les contes de fées, c'est pas factuel, mais ça exprime quand même quelque chose quand on raconte ces histoires-là. Et ce que lui me dit, c'est ben, aussi peu fiable que ces histoires puissent être en ce qui concerne les faits, elles sont une mesure extrêmement fiable des anxiétés qui traversent une société. Donc, quand on regarde ça au sens large et qu'on voit, OK, il y a toujours les mêmes histoires qui reviennent par rapport à sujet X, il y a toujours les mêmes histoires qui circulent à propos de sujet Y, je pense que c'est une information qui est importante. Ça dit quelque chose. Les histoires en tant que telles ne sont peut-être pas honnêtes, mais le sentiment qui est exprimé l'est. Donc, les gens essayent de communiquer quelque chose avec ces histoires-là et on doit être au courant de ce qu'ils essaient de communiquer et répondre à ça, dans le fond. Donc, on doit prendre ça comme une mesure des anxiétés, justement, qui trament dans la société. On doit se rendre compte que les gens ne partagent pas ça nécessairement pour désinformer les gens, mais pour exprimer quelque chose. Il faut être au courant de ce que les gens essaient d'exprimer. Ils font partie de la société. Donc, faut vraiment... C'est une forme d'information en soi. Donc, merci beaucoup.
Merci. Avant de prendre quelques questions du public, d'abord, merci beaucoup à vous trois. On va essayer de partir un peu la discussion. Je pense, Jeff, tes propos avec lesquels tu as terminé sont vraiment révélateurs. Moi, j'étudie plus l'effet de la désinformation et à l'étranger. Donc, j'ai étudié le cas du Myanmar et les conséquences de la désinformation sur le réseau Facebook, par exemple, qui est la première source d'information dans ce pays-là, qui a vraiment créé ou participé au génocide des Rohingyas. Mm-hmm. Ça a été prouvé par les Nations Unies. À quel point est-on conscient ici au Canada des impacts de la désinformation, des fausses nouvelles, etc. Est-ce qu'on se rend vraiment compte? Par exemple, on parle d'ingérence de politique étrangère, mais il y a beaucoup de ces problèmes qui viennent de l'intérieur du Canada aussi. Donc, un de vous trois ou les trois?
Est-ce qu'on s'en rend compte? C'est sûr qu'on a un système au Canada, je pense, pas mal moins polarisé qu'ailleurs. On se compare souvent aux États-Unis. On n'est peut-être pas rendu là à plusieurs égards. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience, en fait, et le fait qu'il y ait une conférence comme ça aujourd'hui qui parle de ces enjeux-là, je suis régulièrement invité à m'exprimer dans des conférences comme ça. Il y a quand même une prise de conscience dans la plupart des pays face à ces enjeux-là. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu il y a 5 ans quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, que je devais expliquer à mes patrons pourquoi je trouvais ça intéressant de parler de fausses nouvelles, que je me faisais dire « ben, les journalistes doivent dire qu'est-ce qui est vrai, pourquoi est-ce que tu veux parler de ce qui est faux? » et qui est une question tout à fait légitime. On ne pouvait pas voir jusqu'où le phénomène allait nous porter. Je pense que, mais le fait que tout le monde a entendu parler de l'expression « fake news » tellement que ça a perdu son sens, ça montre qu'il y a quand même une prise de conscience, non seulement du public, mais des médias et des politiciens. Ça, c'est... Maintenant, est-ce qu'on mesure très bien l'impact de ces choses-là? Comme je disais, on doit avoir plus de recherches sur ça. À quel point est-ce que les fausses nouvelles créent de la radicalisation et que la radicalisation crée des fausses nouvelles? C'est un peu comme un serpent qui mange sa queue. Donc ça, c'est des mécanismes, je pense, qu'on doit mieux comprendre.
I agree. I also think that it almost seemed like we were so focused on the risk of foreign interference, and not that we're not still worried about that. But I think because there was so much discussion around the last U.S. election, we were so worried about how that would impact Canadian elections. And you know, as we've seen, there was a lot of monitoring, and the conclusion largely was there wasn't much foreign interference, if at all, or anything to be really worried about. And what we still need to get a handle on is what is happening in terms of communication mm-hmm. in Canada by Canadians. So the example of, and this is when it's not necessarily whether you want to call it fake news or disinformation, this is just what people say on social media. So it is, you know, it still goes back to the challenge of how we're governing social media platforms, because if you use the example of how people were talking in Myanmar about the Rohingya, for instance, and how it kind of builds up a hate for a particular group in that case, right? I mean, in Canada, we have lots of instances like that. I mean, as someone who represents an independent media, I mean, when we post an article on various different issues, whether it's immigration policy, for instance, or other internal divisions that we have, whether it's over energy policy, we'll see comments on the article, many of them, you know, verging on a fine line of hateful comments, sometimes saying this article's not true, or then they go on a tangent about something else. And so as journalists, as a media outlet, we've had to grapple with, when is it our do we shut that down? Do we delete them? When is it the social media platform's responsibility? When is it the journalist's outlet? I mean, I think it seems like the consensus is we need to get a handle on how we govern social media platforms. We don't have the answer to that or how to even be able to apply any kind of fines or regulations. So, yeah, I mean, I think that is the challenge on how do we handle that in Canada.
And I would maybe add on to that as well, that I think there are not only the initiatives you were talking about, but on the ground, there's a lot of organizations that are trying to target this at vulnerable audiences for these to the consumption of this kind of information. So there's a lot of initiatives. There's concern, and there's a strategic initiative for funding around radicalization in Quebec that I'm a part of. And part of that was understanding how people get sucked into these media vortexes, where it increasingly desensitizes people to increasingly more violent and often fake and hostile language. And you see people get into this spiral where it becomes an obsession, and it becomes the people that were interviewed in this process. It was a life-consuming media consumption in these increasingly closed spirals of communication. And those people you're not gonna fact check. No. But there's lots of people who are exposed to this on the early parts, where if you give them tools, they can critically view some of this. Apathy is Boring has a great media campaign targeted at youth that was about how do you like tell if something's real. These sorts of campaigns are, I'm not sure how effective they are. I think there's more work to be done on that. But I think it's not just coming from institutions and media. I think there's lots of efforts by citizens to equip people to deal with this really, really complex media environment.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a une envie de la part des citoyens d'avoir un peu plus de gouvernance des réseaux sociaux? Parce que cette année, par exemple, au Internet Governance Forum qui avait lieu à Berlin cette semaine, il y a vraiment beaucoup d'actions citoyennes qui étaient sur le terrain demandant un peu plus de gouvernance. Et je sais que de la part du gouvernement, il y a plus de demandes. Vous sentez ça aussi de la part des citoyens, que ce soit ici au Canada ou à l'étranger?
C'est une question, en fait, c'est drôle parce que c'est une question que, personnellement, on m'a posée souvent dans des conférences ou même sur le web. Pourquoi c'est pas illégal de partager des fausses nouvelles? Il y a comme une tendance à dire, ben, on a un problème dangereux, on devrait créer des lois pour l'empêcher. C'est un slippery slope, comme on dit en bon français. Au Canada, on n'est peut-être pas habitué à une réalité autoritaire, mais on le sait que quand les gouvernements légifèrent pour contrer les fake news, c'est souvent les gouvernements les moins démocratiques qui mettent en place des lois comme ça. Et c'est souvent abusé. Donc, on va utiliser ces lois-là pour criminaliser des journalistes, pour faire taire les opposants au régime. C'est assez étrange de penser de ce risque-là au Canada, étant donné l'impression qu'on a de notre système politique. Mais je pense que c'est quand même... C'est des questions très, 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 très sensibles et tout ce qui entoure la légifération doit être vraiment pris au sérieux et faire l'objet d'un réel débat de société en entier, pas juste un gouvernement qui décide de faire passer une loi, je pense.
Je crois qu'il y a un goût pour contrôler cet environnement, mais je suis complètement d'accord, c'est dans les détails, de proposer quelque chose de concret, de faire ça, même si on veut une solution, la solution n'est pas du tout claire. Et donc, ça va soulever des controverses partisanes, je pense, parce qu'on ne veut pas désavantager des citoyens, et il y a tout le discours sur la liberté d'expression aussi.
Qui varie d'un pays à l'autre, de toute façon.
Et donc, on a un petit plus marge de manœuvre au Canada qu'aux États-Unis, parce qu'il y a des réglementations contre les propos haineux, mais comment gérer ça réellement, ben, c'est une porte d'entrée pour contrôler ça.
I'll just add, too, that I think that up until this point, even if people say they're concerned, it has been left to self-regulation, and we're not seeing people. You might know, I mean, how many of us are, I went to a conference, a workshop on security for journalists. Is all your mail encrypted? I mean, even as journalists, so I think people are aware. We saw some people leave their Facebook accounts, but it wasn't, I mean, it didn't have a Facebook blackout, you know, within a couple of months. So I think that it's been proven that self-regulation, even if they think they're concerned or they're even explicitly saying it, we're just not seeing that. And so that's why I think whether or not people are saying they want a public policy to step in, I think that we've seen that it has to.
Juste brièvement rajouter, ce qui est plate, c'est que les plateformes de réseaux sociaux utilisent les journalistes comme vidangeurs sur les réseaux sociaux, comme police sur les réseaux sociaux. Donc, quand les journalistes découvrent un groupe haineux sur Facebook ou une série de fausses pages, on contacte les réseaux sociaux, ils disent « merci beaucoup, on les a retirés ». On se fie beaucoup aux journalistes pour faire le ménage sur les réseaux sociaux, alors que les médias sont en plein déclin catastrophique. Donc, c'est quasiment, c'est pas du self-regulation, c'est vraiment jeter cette responsabilité-là sur des partenaires qui sont, ben, des partenaires qui sont pas payés, qui sont aucunement épaulés là-dedans, ou très peu. Donc, c'est vraiment tout un paquet d'enjeux là, liés à ça.
Ben, merci beaucoup. Je voulais remercier nos trois intervenants. Merci beaucoup pour vos initiatives, même si ça touche que 1%. Là, ça...
Vous avez apprécié cette conférence? Alors, je vous invite à partager ce balado ou à en parler à vos amis. Si vous désirez en apprendre plus sur le travail de l'Observatoire des conflits multidimensionnels, je vous invite également à consulter la page de l'OCM sur le site Internet de la chaire. Pour rester à l'affût des activités de la chaire et participer à nos conférences en personne, suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook, ou abonnez-vous à notre infolettre au www.dandurand.ucam.ca. Ce balado est réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Ici Louis Colorette et je vous dis à la prochaine!